tous ce matin. Salutations chaleureuses. Et donc, on va essayer de se réchauffer dans la communion fraternelle ce matin, hein, ensemble sous le regard du Seigneur. Et j'ai pensé à une parole que Jésus a dite avant de prendre la Sainte Cène. Il a dit: j'ai désiré vivement prendre ce repas avec vous. Hein. Et ici à Savigny, c'est ici que j'ai été baptisé au milieu du siècle dernier, on va dire. Hein. Et donc, et c'est ici que j'ai pris la Sainte Cène pour la première fois. Et quand je voyage, j'ai été dans toute la France, aux États-Unis, jusqu'en Roumanie, en Afrique, au Tchad. Et j'ai pris la Sainte Cène, mais je pense souvent à vous, hein, et donc à l'église de Savigny et à cette histoire de cette époque-là. Alors, nous allons ouvrir la parole de Dieu pour parler de la venue du Sauveur, hein, et beaucoup de choses que vous connaissez, beaucoup de réflexions qu'on peut partager ensemble. Je ne serai pas trop long ce matin. Mais je vous remercie de votre hospitalité, de votre soutien. Et nous-mêmes, nous sommes à Bayeux depuis une dizaine d'années maintenant, Bayeux en Normandie, c'est donc après Caen. Et on se réjouit de cela. Et c'est un privilège, hein, d'être avec vous ce matin. Venez nous voir là-bas si vous voulez. Notre lieu de culte est à quelques centaines de mètres de la tapisserie de Bayeux. Hein. Et puis, si vous continuez un peu, vous avez la cathédrale de Bayeux. Hein. Donc, on est vraiment en centre-ville. Et là, on a un projet là, de construire un autre local. Je vous en parlerai tout à l'heure. Hein. Et donc, pour vraiment avoir plus de place, hein, comme vous avez ici. Hein. Et on prévoit d'avoir un bon chauffage, je ne sais pas. Hein. Voilà. Et donc, merci de prier pour nous. Alors, avant de lire la parole de Dieu, je voudrais vous faire une devinette dans le Nouveau Testament. Et qui est la première personne à avoir annoncé l'Évangile? Alors, je vous écoute. Ah, vous n'y attendiez pas, celle-là, ce matin. Qui est la première personne à avoir annoncé l'Évangile dans le Nouveau Testament? Ah, j'entends quelque chose là-bas. Ouais, vas-y. Ah, c'est pas Jean-Baptiste, c'est avant Jean-Baptiste, on va dire 30 ans avant, voilà. Ah, c'est pas Zacharie non plus, hein? Non, Suzanne, t'as pas le droit. C'est en Luc chapitre 2, hein, et nous lisons en Luc chapitre 2 que l'ange dit: je vous annonce une bonne nouvelle qui sera pour tout le peuple le sujet d'une grande joie. C'est qu'aujourd'hui dans la ville de David, et le mot bonne nouvelle c'est évangile, hein, voilà. Et Evangelion, hein, en grec. Hein. Et c'est un mot qui était utilisé à cette époque-là pour la naissance d'un prince, la naissance d'un roi, on disait Evangelion. Hein. Et en France, quand il y avait un prince ou un roi qui naissait, on disait Noël. Ça veut dire la même chose, une bonne nouvelle. Et donc, c'est l'ange, hein, qui a annoncé la bonne nouvelle, le premier. Et pourquoi les anges ne continuent-ils pas à annoncer la bonne nouvelle, hein? Les bergers étaient dans les champs, ils gardaient leurs moutons, et voilà que, en pleine nuit, hein, et les anges sont apparus avec beaucoup de lumière pour annoncer cette bonne nouvelle. Pourquoi ils ne font pas ça encore aujourd'hui, hein? Pourquoi est-ce qu'à l'Élysée, cette nuit, à la Maison Blanche, ou chez vous, les anges ne viennent pas annoncer la bonne nouvelle? Je vous écoute, hein? Hein? Ah oui, c'est déjà fait chez vous, c'est vrai. C'est vrai. Et puis, le Seigneur ne leur permet pas. Et ça a été réservé à qui d'annoncer la bonne nouvelle aux hommes ? À nous. C'est à nous que nous sommes, nous qui sommes appelés à annoncer la bonne nouvelle aux hommes. Est-ce que vous avez déjà dérangé quelqu'un en pleine nuit pour lui dire « Voilà, le Sauveur est né hein? » Alors c'est l'occasion, hein, le 24 à minuit, vous appelez vos amis et vous dites « Le Sauveur est né hein? » Non, ou peut-être vous leur envoyez un texto, ça sera plus... Hein? Mais annoncez-leur la bonne nouvelle, parce que c'est à nous que cela a été donné. Hein? Et si les anges avaient le droit de le faire, dans le monde entier, ils dérangeraient des gens partout. Hein? Et nous aussi, quand on annonce la bonne nouvelle, des fois on dérange les gens. Hein? Mais il faut qu'ils le sachent, il faut qu'ils entendent que le Fils de Dieu est né. Hein? Et donc ça, c'est quelque chose de tout à fait extraordinaire. Alors, on va se lever, on ne le fait pas d'habitude, mais ça va nous réchauffer ce matin. Et on va lire ensemble, hein? Actes chapitre 2, versets 1 à 12. Alors, il y a quelques mots difficiles, hein, si vous ne savez pas les prononcer, vous les laisserez. Il y a César Auguste, il y a Quirinius, hein, mais vous pouvez les laisser. Hein, voilà. Alors, chapitre 2, verset 1. En ce temps-là, avec moi, Luc 2, oui, excusez-moi, je l'ai ouvert devant moi. Donc, Luc 2, voilà. Tout le monde est prêt ? En ce temps-là, parut un édit de César Auguste ordonnant un recensement de toute la terre. Ce premier recensement eut lieu pendant que Quirinius était gouverneur de Syrie. Tous allaient se faire inscrire, chacun dans sa ville. Joseph aussi monta de la Galilée, de la ville de Nazareth, pour se rendre en Judée, dans la ville de David, appelé Bethléem, parce qu'il était de la maison et de la famille de David, afin de se faire inscrire avec Marie, sa fiancée, qui était enceinte. Pendant qu'ils étaient là, le temps où Marie devait accoucher arriva. Elle enfanta son fils premier-né, elle l'emmaillota et le coucha dans une crèche, parce qu'il n'y avait pas de place pour eux dans l'hôtellerie. Et il y avait aussi dans cette contrée des bergers qui passaient dans les champs les veilles de la nuit pour garder leurs troupeaux. Voici un ange du Seigneur leur apparut. La gloire du Seigneur resplendit autour d'eux. Ils furent saisis d'une grande frayeur, mais l'ange leur dit, « Ne craignez pas, je vous annonce une bonne nouvelle qui sera pour tout le peuple le sujet d'une grande joie. » C'est qu'aujourd'hui, dans la ville de David, il vous est né un Sauveur qui est le Christ, le Seigneur. Voici à quel signe vous le reconnaîtrez. Vous trouverez un enfant emmailloté et couché dans une crèche. Et soudain, il se joignit à l'ange une multitude de l'armée céleste, louant Dieu et disant « Gloire à Dieu dans les lieux très hauts, et paix sur la terre parmi les hommes qui l'agréent. » On va s'arrêter là. Est-ce que vous êtes réchauffés? C'est bien, vous pouvez vous asseoir. Alors, voilà. Et donc, c'est la décision que Dieu a prise, qu'il avait prise depuis très longtemps, de faire naître son fils dans la ville de Bethléem, qui est la ville de David, qui est la descendance qui avait été choisie pour la naissance du Sauveur. Alors aujourd'hui, si on imaginait que le président d'un grand pays donne naissance à un fils, où est-ce qu'il le ferait naître ? Hein ? Dans le meilleur hôpital, la meilleure clinique, avec les soins les plus... bienveillant, hein, souvenez-vous la naissance des princes royaux d'Angleterre, hein, voilà, ils sont pas nés dans une étable, hein, on n'a même pas demandé à une auberge, hein, on est allé directement à la meilleure clinique de Londres, ça a dû coûter pas mal d'argent, hein, mais les choses se sont passées au mieux. Pour quelle raison Dieu a-t-il envoyé son propre fils naître dans de telles conditions, hein? C'est que dès le début, Dieu avait l'intention que l'évangile soit pour tous, du plus pauvre au plus riche, du bas en haut de l'échelle sociale, et il n'y a personne de trop bas pour entendre l'évangile, hein. En Normandie, nous avons un frère qui annonce l'évangile dans les prisons. Eh bien, on a des prisonniers qui se convertissent et petit à petit, ils deviennent membres de nos églises. Et dans une de nos églises, c'est même un ancien prisonnier qui s'occupe de la projection, de la sono et tout ça, et qui sert le Seigneur, hein. Et donc, le Seigneur est venu dans la plus parfaite humilité, hein, pour venir sur cette terre, donner sa vie pour que nous soyons sauvés. Il n'a en aucun cas cherché à s'élever par au-dessus des autres, mais c'est dans la plus grande simplicité et la plus grande intimité. Et puis c'est confirmé par ce passage, Philippiens chapitre 2. Je vous invite à chercher avec moi. Et nous lisons verset 5, Philippiens chapitre 2, verset 5. « Ayez en vous les sentiments qui étaient en Jésus-Christ, existant en forme de Dieu. Il n'a pas regardé son égalité avec Dieu comme une proie arrachée, mais il s'est dépouillé lui-même en prenant une forme de serviteur, devenant semblable aux hommes. Et il a paru comme un vrai homme. » Et il s'est humilié lui-même, se rendant obéissant jusqu'à la mort de la croix. C'est pourquoi aussi Dieu l'a souverainement élevé et lui a donné le nom qui est au-dessus de tout nom, afin que au nom de Jésus, tout genou fléchisse dans les cieux, sur la terre, sous la terre, que toute langue confesse que Jésus-Christ est Seigneur à la gloire de Dieu le Père. Alors si aujourd'hui on devait sauver l'humanité, hein, elle en aurait peut-être besoin, hein. Eh bien, dans l'esprit de ceux qui gouvernent le monde ou qui imaginent des choses, eh bien, il faudrait envoyer un Superman, quelqu'un de plus fort que les autres, plus grand que les autres, plus beau que les autres, plus intelligent que les autres, quelqu'un qui aurait, avec le cerveau, eh bien, un ordinateur pour l'aider à réfléchir encore mieux. Il aurait dans les jambes et dans les bras des exosquelettes pour être plus fort, etc. Enfin, on inventerait plein de choses, mais non. Dieu a envoyé son propre fils dans la plus simple humilité, dans la plus basse classe sociale, et naître dans une étable. Il a pris non pas la forme d'un homme normal, non pas la forme d'un bourgeois, non pas la forme d'un soldat, non pas la forme, non, la forme d'un serviteur. Il est venu servir, hein. Et cela, nous ne l'aurions jamais imaginé. Dans l'épître de Pierre, c'est écrit que dans l'histoire de la rédemption, les anges désiraient plonger leur regard, parce que ça leur paraissait impossible. Déjà que Dieu envoie son propre fils, c'est impossible. Mais ensuite, que son propre fils soit venu comme un simple homme, comme un serviteur, comme le plus bas des hommes, c'est vraiment incroyable. L'ambulance qu'il a amené depuis Nazareth jusqu'à Bethléem, eh bien, c'était un âne, hein. Est-ce que vous feriez ça aujourd'hui, hein? Eh bien, le Seigneur a permis et volontairement choisi cette suprême humilité pour que le sacrifice de Jésus soit compréhensible et recevable par tous les hommes de la terre. Quand vous parlez de Jésus aux gens, ils ne vous disent pas « oui, mais il était trop riche, il était trop important, il s'intéressait pas à nous ». Non, 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 au contraire, ils savent qu'il est venu comme le plus simple homme pour vivre une vie d'homme. 30 années il a vécu en tant que menuisier, charpentier, hein, à peu près, un constructeur, etc. Voilà, hein. Il faisait du bois, il faisait des maisons, etc. pendant 30 ans, avant de commencer à annoncer la parole de Dieu, l'évangile, et de transformer la vie de tous ceux qu'il a rencontrés. Et tout cela, à cause de tout cela, verset 9, toujours de Philippiens, Dieu l'a souverainement élevé, lui a donné le nom qui est au-dessus de tout nom, afin qu'au nom de Jésus, tout genou fléchisse dans le ciel, sur la terre et sous la terre, que toute langue confesse que Jésus-Christ est Seigneur, à la gloire de Dieu le Père. Alors revenons en Luc chapitre 2, et donc nous voyons que cette suprême humilité, cette suprême humiliation qu'il a vécu lui-même, devenir comme un simple homme dans une simple famille, d'être pourchassé par Hérode, devoir aller en Égypte et ensuite de retourner à Nazareth, eh bien tout cela c'était dans les plus humbles et les plus simples conditions. Et les premiers qui ont été avertis de sa naissance, c'était le Sénat. Ah non, c'était l'Assemblée nationale. Ah non, c'était qui ? Les bergers, qui étaient dehors dans les champs pour garder leurs troupeaux. Et donc, j'espère qu'ils ne faisaient pas le temps qu'il fait là, parce que je crois qu'ils seraient rentrés. Mais ce sont ces gens-là qui étaient dans les champs. Et j'ai une photo qui a été prise dans les années 70. Il y avait encore des bergers à Bethléem dans les années 70. Je ne sais pas s'il y en a encore aujourd'hui. Il y avait des enclos de pierre, des oliviers, et les moutons étaient gardés dans ces petits enclos de pierre devant la ville de Bethléem. Et donc, c'est là que les anges sont apparus, avec une grande lumière, et les gens n'avaient pas l'habitude, puisqu'il n'y avait pas d'éclairage public à l'époque, et ils ont été éblouis, et ils ont annoncé le Sauveur, qui est le Christ, le Seigneur. Alors, c'est pour ça que l'ange a dit au début, n'ayez pas peur, ne craignez pas, je vous annonce une bonne nouvelle. Et ça aussi, c'est une merveilleuse phrase qui a été annoncée par l'ange, ne craignez pas, n'ayez pas peur. Jésus l'a souvent dit, n'ayez pas peur, n'ayez pas peur. Et ce qui paralyse, ce qui nous gêne souvent dans notre vie chrétienne et dans la vie en général, c'est la peur, c'est la crainte. La crainte, récemment, il y avait cette peur d'une maladie. Et voilà, il y a la peur des autorités, la peur de la guerre, évidemment. Il y a des guerres, Jésus l'a dit, il y aura des guerres et des bruits de guerre. Des peurs de... Aujourd'hui, beaucoup de Français ont peur de l'appauvrissement, du déclassement, puisque la situation économique est tendue, certaines énergies augmentent, etc. Ce sont des peurs, mais le Seigneur, l'ange nous dit, ne craignez pas, je vous annonce une bonne nouvelle, Evangelium, qui sera pour tout le peuple le sujet d'une grande joie. Et Jésus est venu annoncer une nouvelle, amener son royaume sur la terre, et Jésus a dit, mon royaume n'est pas de ce monde. Et donc c'est un privilège que nous avons d'annoncer un autre royaume, un royaume meilleur, un royaume supérieur, le royaume de Dieu, et de l'amener avec nous sur la terre. Vous savez que quand les gens prient le Notre Père, ils disent que ton règne vienne. Alors ça veut dire qu'il vienne plus tard. Mais ça veut dire aussi qu'il vienne maintenant, que Christ vienne régner dans ma vie. Et ce jour-là, quand les bergers ont vu les anges, ils ont compris que le royaume de Dieu était arrivé sur la terre. Et le Seigneur nous pose la question, le royaume de Dieu est-il arrivé chez vous ? Est-ce que votre maison est un havre de paix, un endroit où la bénédiction du Seigneur règne ? Est-ce que le royaume de Dieu est arrivé dans votre voiture ? Des fois, quand on conduit, on a l'impression d'être dans une voiture de course plutôt qu'au royaume de Dieu. Est-ce qu'il est arrivé dans votre lieu de travail ? Est-ce qu'il est arrivé dans vos lieux de vacances ? Est-ce que le Seigneur règne dans votre vie ? Il est venu pour régner, il est venu prendre possession, il est venu pour être le roi et le souverain de tout, sans exception. Hein. Et pourtant, il y avait un signe, c'est simplement cet enfant qui est né, emmailloté et couché dans une crèche. Et puis, une multitude de l'armée céleste, verset 13, s'est ajoutée, disant « Gloire à Dieu dans les lieux très hauts, paix sur la terre parmi les hommes qui l'agréent. » Alors ce matin, on a eu une chorale céleste quand même, hein. Mais ce jour-là, hein, c'était les anges et les archanges qui se sont joints pour glorifier le Seigneur. Hein. Et on a un chant hein, qui reprend ces mêmes paroles. « Gloire à Dieu dans les lieux très hauts et paix sur la terre parmi les hommes qui l'agréent. Hein. » Et puis, les anges sont repartis. Hein, et les bergers sont allés à Bethléem réveiller les gens et leur annoncer « Voilà ce que nous avons vu. » Ils sont allés trouver Marie et Joseph et le petit enfant. Et ils ont raconté ce qui leur avait été dit au sujet de ce petit enfant. Ceux qui les entendirent furent dans l'étonnement de ce que disaient les bergers. Marie gardait toutes ces choses et les repassait dans son cœur. Et les bergers s'en retournèrent glorifiant, louant Dieu pour ce qu'ils avaient vu et entendu et qui était conforme à ce qui leur était annoncé. Puis j'aimerais m'arrêter et vous laisser là-dessus sur ce qui s'est passé 8 jours après. 8 jours après, Jésus a été amené à Jérusalem pour être présenté au temple. Et c'est une cérémonie qui se faisait pour tous les enfants premiers-nés. Et c'était assez rapide, hein. Le sacrificateur avait l'habitude, il faisait le nécessaire, il y avait en sacrifice 2 tourterelles ou 2 jeunes pigeons comme c'était prescrit. Mais voilà qu'à la fin de cette courte cérémonie, un homme, Siméon, est arrivé, un homme âgé, juste et pieux. Il attendait la consolation d'Israël, l'Esprit Saint était sur lui. Un peu plus tard, on trouve une femme, verset 36, Anne, fille de Phanuel de la tribu d'Asser, fort avancée en âge. Hein, et les deux servaient Dieu nuit et jour dans la prière dans ce temple. Ils étaient poussés par l'Esprit ce jour-là à venir. Et Dieu leur a dit, Dieu avait promis à Siméon, il avait promis à Anne, vous allez voir le Messie. Hein? Alors ils sont venus voir le Messie. Mais qu'est-ce qu'ils ont vu? Un bébé. Hein? Eux, ils s'attendaient à voir un homme. Ils ont vu un bébé. Mais les deux ont cru. Leur cœur a été rempli de foi. Et Siméon a dit, maintenant Seigneur, tu laisses ton serviteur s'en aller en paix selon ta parole, car mes yeux ont vu ton salut, salut que tu as préparé devant tous les peuples, lumière pour éclairer les nations et gloire d'Israël, ton peuple. Et donc c'est vraiment quelque chose d'extraordinaire qui s'est passé à ce moment-là. Et vraiment le Saint-Esprit a mis sa main sur cet homme, Siméon, sur cette femme, Anne. Ils avaient dans leur vie une qualité de vie qui s'appelle la piété. Et j'en ai parlé aux étudiants, j'étais cette semaine à l'Institut biblique à Algrange. Hein, et en 2 Pierre, chapitre 1er, nous lisons à partir du verset 5, « À cause de cela, faites tous vos efforts pour joindre à votre foi la vertu, à la vertu la connaissance, à la connaissance la maîtrise de soi, à la maîtrise de soi la patience, à la patience la piété, à la piété, l'amour, l'amitié fraternelle, et à l'amitié fraternelle, l'amour. » Et alors, en discutant avec les étudiants, évidemment, il y a certains mots qu'on ne connaît même plus aujourd'hui. Voilà, hein, le premier, c'est la vertu. Hein, qu'est-ce que c'est la vertu? La foi, on sait ce que c'est. Qu'est-ce que c'est la vertu? Eh bien, dans le contexte de la vie chrétienne, c'est une vie vécue. L'exemple dans l'Ancien Testament, c'est... j'allais dire Esther, c'est pas Esther, c'est Ruth, voilà, Ruth, hein, dans l'Ancien Testament, et qui a choisi la vertu, c'est de faire dans sa vie les bons choix. Hein. Et chacun d'entre nous qui servons le Seigneur, nous avons à un moment ou à un autre, souvent jeunes, fait des choix. Hein. Et le Seigneur nous dit, fais le bon choix. Hein. devant nous se présentent les bons choix et les mauvais choix. Les choix du Seigneur et les choix du monde. La vertu, c'est de choisir, de faire le bien et de rejeter le mal volontairement. Hein, pas comme ça, comme si ça se passait comme ça. Non, non, volontairement, je choisis de faire le bien et de rejeter le mal. C'est très important quand on est jeune. À la vertu, la connaissance, la maîtrise de soi, la patience et puis la piété. Cette qualité de vie qu'avaient Siméon et Anne, qui étaient attachés de tout leur cœur au Seigneur, qui du matin au soir priaient, chantaient, louaient le Seigneur et puis aidaient dans le temple. Hein, il y avait beaucoup de choses à faire. Ils avaient cette qualité d'attachement au Seigneur qui est la piété. Eh bien, ces gens-là ont été honorés. Hein, le jour de la naissance du Seigneur, c'est eux qui étaient honorés. Vous savez que dans le temple, il y avait des sacrificateurs, des souverains sacrificateurs. Il y avait des enseignants, il y avait plein d'autres gens, mais ils n'étaient pas du tout conscients de ce qui se passait ce jour-là. Ils vivaient leur vie, ils faisaient leur travail, ils exécutaient leurs fonctions sans se rendre compte de la réalité des événements spirituels qui se passaient ce jour-là. La piété, c'est d'être attentif, ouvert, à l'écoute de la voix du Seigneur et de ce qui se passe réellement dans le monde ou autour de nous, dans le domaine spirituel, dans le domaine matériel, et ils ont eu cette révélation. Voilà le Fils de Dieu. Alors, que le Seigneur nous aide tous à accueillir pleinement dans notre cœur la joie de Noël, la joie du Seigneur, à le partager autour de nous, avec comme l'ont fait les anges, hein, allez déranger vos voisins et chantez-leur la bonne nouvelle. Hein. Et puis, que le Seigneur nous aide à nous revêtir d'humilité, comme le Fils de Dieu s'est revêtu d'humilité. Il n'a pas cherché les choses grandes et élevées, il s'est abaissé jusqu'à devenir un simple homme et même un serviteur. Hein. Et puis, que le Seigneur nous donne cette qualité de vie, vie chrétienne, vie spirituelle, qui est la piété, un attachement de tout cœur au Seigneur, et une écoute, une oreille attentive à la voix du Seigneur. Que ce soit pour nous vraiment un démarrage d'une vie intensément vécue avec le Seigneur pour cette période de Noël. Nous allons prier maintenant le Seigneur. Seigneur éternel, quelle joie, quel privilège nous avons de te connaître. Tu t'es révélé à nous, tu t'es fait connaître à nous par une grâce immense et merveilleuse. Nous qui étions perdus, tu nous as sauvés, tu as mis ta main sur nous. Et vraiment, nous te remercions, nous te bénissons, nous te exaltons de tout notre cœur et nous avons le privilège de vivre avec toi tous les jours de notre vie. Merci de cette bonne nouvelle qui a été annoncée par les anges, qui nous a été annoncée à nous aussi. Mais ne permet pas, Seigneur, que nous gardions cette bonne nouvelle pour nous, qu'elle soit au contraire partagée par nous jusqu'aux extrémités de la terre. Et vraiment, nous voulons te remercier, t'exalter de tout notre cœur, de ta grandeur, de ta puissance, de ta sainteté, que tu sois exalté, béni, et que tu mettes cette joie dans nos cœurs, qui soit à ta gloire et à ta louange pleinement. Nous t'exaltons au nom de Christ, notre Sauveur et Maître. Amen.